Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Germaine Tillion s'est éteinte centenaire. S'il fallait encore se convaincre de l'énergie que portait en elle cette femme hors du commun, il faut l'entendre dans le mémoire du siècle qui lui était consacré en 1987. Germaine Tillion avait alors 80 ans. Au micro de Georges Walter, elle faisait le récit des grandes périodes qui avaient marqué son existence. Ses premières missions d'ethnologue en Algérie, la résistance dans le réseau du Musée de l'Homme, son arrestation et sa déportation à Ravensbrück, sa contribution à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, aux enquêtes et procès des crimes nazis, mais aussi son travail pour faire connaître la réalité du goulag, ses différentes missions en Algérie dès le début de l'insurrection, ses actions pour tenter de faire cesser les attentats d'un côté, la torture et les exécutions de l'autre, afin que s'instaure le dialogue. La force et l'exigence morale, la passion de connaître, de comprendre, mais aussi l'humour et la joie de vivre, tout est dans la voix de celle qui est entrée au Panthéon en 2015 avec Jean Zay, Pierre Brossolette et sa camarade de résistance et de déportation, Geneviève de Gaulle-Antoniose.
Mémoire du siècle, Germaine Tillion ou le combat pour la vérité.
Moi j'étais ethnologue de terrain. L'ethnologue c'est quelqu'un qui va sur place et qui écoute parler les gens. Et c'est quand même irremplaçable. Mais au fond, quand je vois quelque chose que je ne peux pas supporter, j'agis.
Elle se destinait à témoigner. Elle fut contrainte de participer et de combattre. Ethnologue qui cherchait la rencontre avec les hommes et cette compréhension de soi que l'autre vous révèle, Germaine Tillion a été prise au collet par l'histoire. La première fois, c'est le camp de concentration de Ravensbrück. La deuxième fois, c'est la guerre d'Algérie. Elle ne savait pas. L'ancienne élève du lycée Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand, l'étudiante qui partait pour les Aurès à 26 ans avec pour bagage son diplôme des hautes études et des langues orientales, elle ne savait pas quel volcan serait son Algérie 20 ans plus tard. Elle ne savait pas que le musée de l'homme deviendrait un jour plus proche le sigle de son combat dans la résistance, ni qu'elle ferait l'ethnographie de la déportation. Par une curieuse coïncidence, Germaine Tillion va entrevoir toute jeune quelques images du nazisme, c'est en 1934, à la veille du départ pour sa première mission dans les Aurès, à la veille des seules années paisibles.
J'étais simplement une étudiante tout à fait banale et qui aime voir du pays comme tous les gens jeunes. Et j'avais été choisie. Bon, alors je suis partie par la Tchécoslovaquie et je suis revenue par le Danemark. Et quand j'étais à Königsberg, j'ai vu les débuts, tout à fait les premiers débuts, les premiers étudiants qui étaient nazis. Je me souviens d'ailleurs de m'être moquée d'eux, pas simplement. Et à ce moment-là, moi j'étais déjà très calée en matière de passé moyenâgeux, français. Et je connaissais par conséquent les auteurs du haut Moyen-Âge qui racontent les premières migrations. Et alors je leur dis, ah oui, oh, je connais bien tout ça. Au moment, on sait bien que les grandes migrations germaniques ont été provoquées par la famine. Alors, les Germains qui étaient jeunes, qui étaient sportifs, qui avaient de l'allant, ils sont partis devant et puis ils sont arrivés en France, ça a fait les Français, puis les pauvres traînent de la patte, ils sont restés derrière, ben, ça a fait l'Allemagne. Alors, ils ont été tellement atterrés qu'ils m'ont cru. Ils étaient tout penauds. Ils n'osaient plus parler de leurs histoires de race. Seulement, c'était, tout ça, c'était de la plaisanterie. Et la plaisanterie, ça a un temps. Je me rendais parfaitement compte, si vous voulez, de ce qu'était finalement le nazisme. Oui. J'ai revu l'Allemagne pendant 15 jours, tout de suite avant la déclaration de guerre. À ce moment-là, j'ai pu observer l'énorme différence qu'il y avait entre l'Allemagne de 1933 et celle de 1938. Et cette différence était déjà proprement effrayante. Ensuite, moi, je suis repartie en mission en Afrique. J'étais absolument ravie d'avoir une mission parce que c'est toujours une grande chance pour quelqu'un, un étudiant en ethnologie, avoir une mission sur le terrain, c'est la réussite, c'est fantastique, c'est merveilleux. Je suis donc partie absolument enchantée vers l'Aurès, mais je serais partie tout aussi bien, je vous dis, chez les Lapons ou chez les Papous, c'était pareil pour moi. Et au fond, je me suis rendu compte, après coup, que ce qui m'intéressait, c'était pas réellement l'Afrique, c'était pas réellement ceci ou cela. Ce qui m'intéressait, c'était, que je suis raciste. Je suis raciste par rapport à la race humaine. C'était la race humaine qui m'intéressait. Alors je me suis trouvée donc d'abord avec des gens très gentils. J'ai bavardé avec eux. C'était des Chaouias, c'était dans l'Aurès. J'ai parlé avec eux et toujours avec cette arrière-pensée qui était de replacer les gens en face desquels je me trouve dans un ensemble qui est l'ensemble humain. Or, j'étais, ne l'oubliez pas, une élève de l'Institut d'ethnologie. Donc, j'avais, dans le cadre de l'Institut d'ethnologie, vu des quantités de gens dits sauvages ou en tout cas très étranges, très différents. Mais en même temps, j'étais très passionnée par une variété qui s'appelle le paysan français. Et j'avais été aussi, également aux hautes études, spécialiste en particulier des antiquités bretonnes, par exemple, des antiquités celtiques, de la littérature celtique ancienne. Mon grand-père m'avait raconté des quantités d'histoires sur son enfance. Grâce à, si vous voulez, cette espèce de capital de connaissances très étalées, quand j'arrive dans le pays, vraiment chez les vrais paysans, les vrais, à une distance fantastique, puisque dans ce temps-là, il n'y avait pas de route, et il fallait que je fasse 14 heures de cheval pour voir un Français de France, ou même un Français d'Algérie. Pareil. Donc, avec mon capital de connaissances de l'époque, l'endroit où je classais mes paysans de l'Aurès, eh ben c'était par rapport aux paysans français et pas par rapport aux hommes qu'on étudiait en ethnologie. Et c'est à ce moment-là précisément que je me suis rendu compte à quel point il y avait, je dirais, une certaine originalité de la paysannerie méditerranéenne par rapport au reste du monde. Autrement dit, le fait que la paysannerie méditerranéenne est au fond gagnée, j'allais dire gagnée la guerre, elle a gagné la guerre de la concurrence, en ce sens qu'elle s'est appropriée ce qu'on peut appeler la civilisation. Et alors du coup, on peut dire que la civilisation est un phénomène méditerranéen. D'abord, elle a été une civilisation arabe, bon, ben ensuite une civilisation européenne, tatatata, c'est toujours le même tabac. C'est un groupe qui est tantôt au sud, tantôt au nord de la Méditerranée, mais qui est méditerranéen. Or, la Méditerranée, pour moi, c'était une province. C'était une province du monde, c'était pas le monde. Le vrai monde, à mon avis, c'était, contrairement à ce que pensaient les orientalistes qui venaient et qui pensaient que le monde, c'était eux, le monde, c'était pas eux. Le monde, c'était en réalité, bon, les Esquimaux, les Papous, les Mélanésiens, etc., etc. C'était eux la majorité, c'était eux qui couvraient la terre. Autrement dit, le monde, le monde, l'espèce humaine, c'était l'espèce qu'étudie Lévi-Strauss et qu'il nous décrit dans les structures élémentaires de la parenté. Les structures élémentaires de la parenté sont les structures élémentaires de l'espèce humaine. Et dans cette variété de l'espèce humaine, il y avait une province, un petit endroit bien local, qui s'appelle la Méditerranée, un petit lac. Autour de ce petit lac, il y a une bande de gens qui ont inventé un petit truc local. Mais ce petit truc local a eu une énorme expansion et a couvert tout le reste. Ce qui fait que nous faisons de la mégalomanie méditerranéenne.
Donc, tandis qu'elle vit chez les Chaouia de Lorès, Germaine Tillion n'est pas encore occupée, à proprement parler, avec ce qui sera sa grande affaire d'ethnologue, la condition de la femme en Méditerranée, sujet du futur livre fondamental que sera le Harem et les cousins. Mais les bases en sont déjà posées.
En fait, je ne me suis pas tellement occupée des femmes à cette époque-là.
Il n'y avait pas tellement d'ethnologues femmes
d'abord,
à cette époque.
Oui, il n'y avait pas d'ethnologues femmes. Et les femmes méditerranéennes, les femmes, si vous voulez, étaient vraiment en retrait, tellement en retrait dans la société, que j'ai bavardé, bien sûr, avec elles. Mais d'abord, je pense que si j'avais été un homme, j'aurais bavardé aussi tout autant, car il n'y avait pas d'hostilité vis-à-vis d'un Européen. On était très très bien reçus et avec confiance, tout au moins à partir du moment où on était connu. Quand on était connu dans une région, bien entendu, on était jugé d'une façon individuelle et non pas catégorielle. N'est-ce pas ? Ce qu'il y a de tragique, c'est lorsque les gens sont jugés catégoriellement. Alors on n'est pas un tel, on est un Français, on est un Anglais, on est un ceci, un cela. Ça n'existe pas, un Français. Il y a 50 millions de Français, tous différents. Ça n'existe pas, un Algérien. Il y a 50 millions d'Algériens, etc., etc. J'habitais dans une caverne. Quand je m'en allais, pour aller faire le tour complet, je partais à cheval, c'était merveilleux. J'avais mon chien, j'avais un cheval. Ma deuxième mission, j'avais un cheval, une jument qui s'appelait Shmama. J'avais deux mulets, Louisa, une mule Louisa et Astot, le mulet qui est une carne. Il y avait une adorable petite ânesse qui s'appelait Rosalie, qui était très vaillante. Il y avait mon chien Sultan, et puis j'avais deux employés, donc, qui étaient très sérieux, très disciplinés, beaucoup plus exacts que moi. Nous avions nos tentes, et on campait.
Aux années paisibles de Germaine Tillion, en compagnie de l'ânesse Rosalie, dans l'Aurès, ses quatre missions successives s'échelonnent entre 1934 et 1940, correspondent en Europe les années dites de la montée des périls. Sous le Front populaire, la guerre civile d'Espagne. Sous la guerre d'Espagne, les préparatifs de Hitler et de Mussolini.
Moi, naturellement, je ne pensais pas du tout à la politique, sauf que j'avais cette arrière-pensée du danger. Mais j'étais choquée par deux choses. J'étais choquée que le gouvernement français, qui se trouvait être le Front populaire, favorise les grèves dans les usines d'armement. Ça me choquait.
Là, nous sommes en 1936.
Là, nous sommes maintenant entre 1936. Oui. En 1936, n'oubliez pas, j'étais en Afrique.
Oui.
Et je connaissais ce qui se passait uniquement par le seul journal que je recevais une fois tous les 15 jours, ou par chance une fois par semaine, qui était Paris Soir. J'étais choquée par ça, et j'étais horriblement choquée aussi qu'on ne soutienne pas les républicains espagnols. Autrement dit, si vous voulez, j'étais beaucoup plus à gauche que la gauche et beaucoup plus à droite que la droite. Alors, en 1940, je ne savais pas du tout que le front français avait été enfoncé, et j'ai fait mes bagages parce que ma quatrième mission se terminait ce mois-là. Alors, je suis arrivée et j'ai appris. Je l'ai appris d'abord à Arras. Ensuite, bien entendu, je suis passée forcément par Constantine. Et j'ai entendu le discours de Paul Reynaud, où il annonçait qu'il fallait un miracle pour sauver le pays. J'étais chez un instituteur algérien, M. Tarat et sa femme. Nous étions là tous les trois, à côté du poste, et nous pleurions tous les trois à chaudes larmes. Après, j'ai pris le bateau, le train, puis le bateau, puis encore un train. Je suis arrivée à Paris, je me souviens du premier bombardement de Paris. Puis on a décidé tout de même de partir. Bon. Et j'ai entendu le discours de Pétain le 17 juin 1940. Je me souviens que ça m'a donné un tel choc que je suis sortie dans la rue pour vomir.
Cela s'est passé 2 semaines après le retour de Germaine Tillon d'Afrique. Le lendemain 18 juin 1940, c'est l'appel du général de Gaulle à la résistance. Résistance qu'elle organise au Musée de l'Homme en un réseau où elle aura le grade de commandant. Elle a 33 ans.
On peut dire que le réseau du Musée de l'Homme a dû commencer entre 2 vieux colonels, dont l'un s'appelait le colonel de la Rochère et l'autre le colonel Ouette. Ils se sont rencontrés tous les deux, probablement avant le discours du général de Gaulle. Ils se sont rencontrés devant la statue de Mangin que les Allemands avaient fait sauter ce jour-là. Le jour où ils ont fait sauter la statue du général Mangin, ces 2 vieux combattants de la guerre de 14 sont venus. Et ils se sont rencontrés, ils ne s'étaient pas vus depuis 10 ans ou depuis 15 ans, je ne sais pas. Ils se sont simplement rencontrés là. Et à ce moment-là, ils ont décidé de faire quelque chose ensemble. Je crois que le réseau était déjà en état structurellement constitué en août 40.
Et vous êtes arrêté d'ailleurs le 13 août 1942.
Moi, 13 août 42.
Oui,
mes camarades du Musée de l'Homme ont été arrêtés en février 41. Le groupe du Musée de l'Homme a été éventé par l'Abwehr. Ils ont essayé tout de suite de faire un journal, le journal Résistance. Alors forcément, un journal, on le distribuait, c'est fait pour ça. Alors le fait de distribuer ce journal, Ça représentait, si vous voulez, ça touchait quand même des milieux assez étendus. Il y avait le petit groupe de ceux qui le rédigeaient, il y avait le groupe de ceux qui le répandaient, et malgré tout, entre ceux qui le répandaient et ceux qui le recevaient, il y avait de temps en temps, forcément, des contacts.
Mémoire du siècle, Germaine Tillon.
Lorsque je me suis trouvée à Paris en 40, et que j'ai eu en main, si vous voulez, tous les moyens que représentait un réseau de résistance, parmi les gens auxquels j'ai demandé qu'ils filent en zone libre, j'avais tous les moyens de les faire passer. Il y a eu Mauss, bien entendu, qui était donc mon patron au point de vue scientifique, qui portait l'étoile jaune, et que j'allais voir au moins une fois par semaine. Et nous parlions, bien entendu, de la situation. Après l'exécution de mes camarades, lorsque nos camarades du Musée de l'Homme ont été arrêtés, c'était tous des élèves de Mauss. Le soir de l'exécution, qui a eu lieu donc, ils ont été arrêtés en février 41, ils ont été fusillés en février 42. Le soir de l'exécution, je me souviens d'être passé chez Mauss en vélo. Et bon. Eh bien, évidemment, si à ce moment-là, moi, j'avais eu les moyens de faire sauter un train allemand ce jour-là, mais je crois bien que je l'aurais fait.
Mais votre maître Marcel Mauss vous a dit en 1940...
Alors, ça, c'est pas en 40.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Non, oui. C'est en 42. Nous parlions justement alors du problème antisémite et de cette absurdité extravagante que représentait l'antisémitisme allemand. C'est-à-dire, pourquoi vouloir massacrer une population pour des raisons religieuses, apparemment, alors qu'ils étaient la plupart presque tous athées. C'était siphonné. Et je me souviens de Mauss me disant, avec sa belle barbe de prophète et son âme, clignant de l'œil, il me dit, vous savez ce qu'il y a au fond de tout ça? C'est l'extermination.
C'est une intuition?
Pas du tout. Un homme comme Mauss ne parlait pas par intuition. Il avait simplement des lectures, il savait simplement lire un texte. Bon, il avait certainement lu. En plus, il parlait l'allemand comme le français. Il avait fait des études approfondies en Allemagne. Il connaissait admirablement tous les écrivains allemands. Et il avait donc lu, il avait vraiment lu Mein Kampf, pour commencer. Ensuite, il avait suivi un cheminement. Et il est possible également que parmi les grands hommes de science allemands, il y en avait peut-être qui avaient gardé un contact avec lui, c'est possible.
C'est donc le 13 août 1942, à peu près 6 mois après l'exécution des camarades de son réseau, que Germaine Tillon, sur dénonciation d'un traître qui sera fusillé à la Libération, est arrêtée avec sa mère. Après 14 mois de prison à la Santé puis à Fresnes, elle est déportée à Ravensbrück. Sa mère périra dans une chambre à gaz.
Nous avons été déportés, enfin moi j'ai été déportée avec un groupe de NN, c'est-à-dire Nacht und Nebel, ça veut dire nuit et brouillard, et nous avons justement, du fait que nous étions Nacht und Nebel, nous avons été déportés non pas dans des wagons à bestiaux, mais dans des wagons de voyageurs, avec à raison d'une personne par place et un seul gardien. L'histoire Nacht und Nebel demande une petite explication. C'est une idée personnelle de Hitler, qui était exaspéré par les lenteurs de la justice militaire allemande. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on arrête les gens, on les fusille tout de suite. Or, les militaires allemands, ils voulaient faire les choses dans les règles. Ils voulaient bien fusiller les gens, tant et plus, mais ils voulaient les fusiller après jugement. Ça faisait partie de leurs idées de militaires. Bon. Alors, Hitler décide de faire cette catégorie de Nacht und Nebel qui sont immédiatement enlevés et emmenés en Allemagne et jugés en Allemagne, d'après lui. Alors, les militaires obéissent, très bien. Effectivement, il y a eu des gens dans la catégorie Nacht und Nebel qui ont été traités d'une façon abominable, décapités à la hache, etc., etc., quand ils étaient envoyés dans une certaine direction et à un certain endroit. Puis d'autres, ils étaient envoyés ailleurs. Et là, arrivait une consigne quelconque. Pour nous, la consigne a été tout simplement de nous mettre dans un bloc à part en attendant qu'on statue sur notre sort. Et voilà. C'est comme ça que je me suis trouvée. Bon, qu'au lieu de voyager dans un wagon à bestiaux, on a voyagé dans un wagon de voyageurs. Et qu'une fois arrivé à Munsbruck, au lieu de se trouver en vrac avec les droits communs, on s'est trouvé dans un bloc où nous avions ni droit au colis, ni droit de sortir du bloc, ni droit de ceci, ni droit de cela. Mais tout ça mis bout à bout faisait qu'on était dans un bloc où il y avait 85 ou 90% de gens de la résistance, au lieu d'être 90% de droits communs avec 10% de gens de la résistance. La mortalité était plus élevée chez les prisonniers dans la première année de captivité, pour des tas de raisons, dont une était le fait que le vieux prisonnier devient rusé et intuitif. Il sait comment se garer, comment... Il y a des espèces de règles de survie qu'il acquiert. C'était donc, au fond, comprendre. Comprendre et expliquer, c'était vital. Beaucoup de mes camarades m'ont rappelé que je leur ai figuré, à l'époque où nous étions terrassiers et où nous étions attelés à un énorme tuyau pour arroser, puis on traînait également un rouleau de pierre pour écraser les cailloux sur les routes. Et alors on était surveillés par une Aufseherin qui de temps en temps en avait marre et s'en allait. Soi-disant, il y avait des bandes rouges qui la remplaçaient. Les bandes rouges, c'était des prisonnières qui avaient l'honneur de surveiller les autres, sous leur responsabilité. Alors, quand les bandes rouges en question n'étaient pas des mouchardes, et ça arrivait, à ce moment-là, bon, on pouvait parler. Et j'ai profité d'une de ces occasions où nous avions des bandes rouges qui étaient de connivence avec nous, pour leur faire une conférence où je leur expliquais comment fonctionnaient les camps de concentration, la différence qu'il y avait entre le camp d'extermination et le camp dit de travail, que finalement, dans le camp d'extermination, il faut quand même travailler, sans ça, il ne rapporte rien. Et dans le camp de travail, il faut quand même mourir, parce que, il n'y a pas d'autre solution. Et rien d'autre à en faire. Alors, j'expliquais ça tout en détail. Toutes mes camarades m'ont dit qu'elles avaient été absolument enchantées de ce que je leur avais expliqué. Parce que c'est vrai que, pour l'être humain, ce qu'il y a de pire, c'est de ne pas comprendre ce qui lui arrive. À partir du moment où on comprend, on domine, au fond, la situation qu'on a compris, même si elle vous écrabouille. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est à quel point l'information filtre dans le milieu carcéral. Et à quel point il est impossible d'empêcher les gens de savoir quand ils le veulent. Quand nous sommes arrivés à Ravensbrück, c'était en octobre 43, donc. J'ai été arrêtée le 13 août 42, c'est donc 14 mois après, en octobre 43. Nous avons été mis en quarantaine. C'était l'habitude que tous les convois qui arrivaient étaient mis pendant un mois en quarantaine, le temps qu'ils fassent toute leur diphtérie, le scarlatine et autres. Bon, c'était endémique dans le camp. Alors nous avons fait nos scarlatines et nos comme tout le monde. Moi j'ai eu la diphtérie et bon. Or, dans ce bloc de quarantaine où nous étions, il y avait des Tchèques qui arrivaient directement d'Auschwitz et qui nous ont raconté en détail ce qu'était Auschwitz en octobre 1943, puisqu'elles en venaient. Par conséquent, j'ai su personnellement en octobre 43 comment fonctionnaient les chambres à gaz, comment on faisait les sélections à l'arrivée du train, comment on avait d'immenses hangars dans lesquels on empilait les cheveux, les dents en or, et etc., etc. Tout ça en octobre 43 à Ravensbrück. Et 6 mois après, à peu près, c'est-à-dire dans la première moitié de 44, c'est une de nos amies, qui était Grete Buber-Neumann, a tenu à me raconter, à moi personnellement, comment fonctionnait le goulag soviétique. Comme je ne parlais à peine l'allemand et qu'elle ne parlait presque pas le français, elle a demandé à une de ses amies, qui était Blokova, je crois, d'un bloc de gitane, de nous cacher 2 dimanches de suite. Et pendant 2 dimanches de suite, nous avons été à 3. Grete Buber-Neumann, mon amie Anise Girard, qui est maintenant Madame Postel-Vinet, et moi-même, nous nous sommes cachés dans ce bloc. Et Grete nous a raconté toute sa vie en URSS et comment elle avait été envoyée dans un camp, dans le goulag, et comment était le goulag stalinien. Alors, elle nous a raconté, c'était d'ailleurs extraordinaire, elle nous a raconté qu'elle était donc noire comme un pied de vigne, maigre comme un sarment, dans le fond de la Sibérie. Un jour, on l'a appelée au bureau, on l'a décrassée, on l'a mise dans un train qui a roulé pendant peut-être 15 jours ou un mois, qui s'arrêtait de temps en temps, 8 jours, à un endroit. Elle me disait que la première fois que le train s'est arrêté, les gens qui la gardaient avaient été chercher des boîtes de conserve et qu'elle avait vomi tripé boyau, parce qu'il y avait des années qu'elle n'avait pas mangé une boîte de conserve. Et puis, elle est arrivée dans une prison extraordinaire, ripollinée, avec eau chaude et eau froide, où on lui a fait boire du lait, etc. Quand elle a eu figure humaine, ils l'ont remise dans un train et elle est arrivée dans un pays inconnu où il y avait une grande rivière et un pont. Elle a été emmenée au milieu de ce pont et au bout de ce pont, il y avait des gens qui avaient un uniforme qu'elle ne connaissait pas, c'était les SS. Et il y avait avec elle un petit ouvrier qui, lui, probablement avait été arrêté beaucoup plus tard qu'elle, qui, lui, connaissait les SS, qui était un petit ouvrier allemand, qui probablement était un communiste ardent, et qui sanglotait, qui disait « Tuez-moi, camarade, tuez-moi, mais ne me livrez pas à ces brutes. » Et les camarades, c'était deux armoires à glace qu'ils tenaient chacun par un bras et qui l'ont remis. Donc ça, c'est horrible. Horrible.
Pendant les 10 ans qui suivent sa libération, Germaine Tillion n'a de cesse qu'elle n'enquête et ne témoigne sur les crimes nazis. Et c'est pour elle un acte essentiel de justice par la vérité. Elle démonte le double mécanisme de l'extermination et de la rentabilité mis au point par Hitler. Dans son livre sur Ravensbrück, analyse rigoureuse, témoignage capital sur ce qu'elle appellera la gigantesque entreprise criminelle qui, de 1933 à 1945, a phagocyté une nation civilisée, notre égale en science et en culture. Et c'est avec la même obsession de la vérité qu'elle va enquêter sur le goulag à l'époque des révélations de David Rousset.
Lorsque David Rousset a voulu faire une enquête sur les camps soviétiques, à ce moment-là, mes camarades déportés de la résistance m'ont élu pour les représenter dans le jury qui devait enquêter sur les crimes de Staline. Et je me suis donc trouvé automatiquement dans le jury en question. Et c'est la première fois qu'il a été question publiquement du goulag soviétique.
Mémoire du siècle, Germaine Tillion.
Nous avons été libérés par la Croix-Rouge suédoise. Dès mon arrivée en Suède, j'étais dans un groupe de 300 Françaises libérées par le comte Bernadotte. Et j'ai tout de suite commencé à interroger mes 300 camarades pour savoir simplement quel était leur numéro d'ordre et leur date d'arrivée à Ravensbrück et le nom des camarades qu'elles avaient vus mourir. Simplement par esprit civique, pour pouvoir retrouver les traces et au moins prévenir les familles. Et quand j'ai été rapatriée, c'était donc en juillet 45, j'avais mon vieil ami Jacques Lecomte Boinet qui m'attendait à l'aérodrome. Il avait été membre du CNR, par conséquent c'était...
Comité national de résistance.
Oui, bien sûr, et il était donc dans les... Je sais pas, il y avait un parlement, bon, il faisait partie de ce parlement. Alors, il était venu avec la voiture du CNR pour m'attendre à l'aérodrome. Et je me suis aperçu qu'on n'avait rien comme document, ce qui fait que j'ai automatiquement été amené à fournir mes documents à l'état civil et à continuer à cette recherche. Et le fait que toute ma documentation sur l'Afrique avait disparu, j'ai voulu oublier l'Afrique. Et je l'ai oublié. J'ai oublié l'Afrique pour me plonger dans l'atrocité de ce passé et de ce crime monstrueux qu'a été le crime hitlérien. Et dans le cours de cette angoisse, de la recherche nécessaire, j'ai pensé qu'il fallait retrouver aussi tous les textes écrits. Je savais que ces textes avaient été ramassés par le général Bradley et qu'ils se trouvaient par conséquent vraisemblablement aux États-Unis. Alors j'ai donc demandé un papier officiel tricolore pour aller aux États-Unis et j'ai pu ramasser toutes mes économies pour aller à mes frais faire une enquête pour savoir ce qu'étaient devenus les documents. Et là, j'ai donc été d'abord à New York puis à Washington. J'ai appris avec épouvante que tous ces documents allaient être rendus à l'Allemagne. Et j'ai dignement protesté en disant ce qui a été saisi en France doit être rendu aux Français. Ils m'ont dit d'accord, on vous les rendra. Bon, Je rentre ensuite à Paris, et le jour de mon retour, ou à peu près, je crois que c'est, je trouve chez moi une lettre, un télégramme et un pneumatique qui m'avait été envoyé par un de mes maîtres, qui était le professeur Massignon. Et le professeur Massignon me demande de venir d'urgence le voir. Et alors, il me dit, voilà, depuis 8 jours, on a décidé de bombarder l'Aurès. Alors l'Aurès, c'est votre domaine, c'est vous, vous êtes la seule personne qui peut parler au nom des paysans de l'Aurès. Je vais demander une mission pour vous, pour que vous puissiez prendre la défense des populations paysannes de l'Aurès. Alors, il me demande de l'accompagner, et nous allons...
Nous sommes en quelle année, là ?
Nous sommes exactement en novembre 54. Alors, nous allons donc, en novembre 54, chez le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait M. François Mitterrand. Bon. Nous étions 3, d'ailleurs. Il y avait Madame Stib. Il y avait le professeur Massignon et moi-même. Moi, j'étais tout à fait une inconnue quelconque, mais Madame Stib était communiste et le ministre de l'Intérieur a refusé de la recevoir. Il a donc reçu le professeur Massignon et moi. Et il nous a accordé la mission de 3 mois, ou plutôt il me l'a accordé. Et je suis partie bien sagement dans le reste, ne sachant rien de ce qui s'était passé pendant 14 ans. J'avais quitté l'Aurès exactement en mai 40. Je retrouve l'Aurès en décembre 54. Et dans les 14 années qui s'étaient écoulées, il s'était passé pour moi beaucoup de choses, mais j'ignorais totalement ce qui s'était passé de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, la première chose que j'ai observée dans l'Aurès, à ce moment-là, la guerre était encore très, 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 très larvée, nous dirons. Et je dirais même que, maintenant je le sais, pendant presque un an, pendant des mois et des mois, on s'est retenu des deux côtés. Du côté français et du côté algérien, on a fait attention de se ménager. Alors, les attaques du FLN de l'époque, il ne s'appelait pas encore le FLN, portaient essentiellement sur les poteaux télégraphiques. Ça, invariablement, ils coupaient des poteaux télégraphiques, ils les faisaient plutôt couper par les paysans du coin. Ensuite, les Français arrivaient et obligeaient les paysans du coin à remettre les poteaux. C'était ça le grand. Il y a eu quand même quelques règlements de compte. Et puis quelques meurtres faits par hasard. Parce que quand on tire, on risque de tuer quelqu'un. Ça arrive, malheureusement, très souvent. Bref, donc ce premier contact que j'ai avec l'Aurès, en 54, je suis d'abord frappée par l'effondrement du niveau de vie. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai écrit le livre « L'Algérie en 1957 ».
Le titre d'un autre livre de Germaine Tillon, « Les ennemis complémentaires », exprimera exactement cette relation entre Algériens et Français qui ne ressemble à aucune autre et qui va rendre plus atroce, sans doute, l'affrontement qui commence.
En fait, ce que ça avait de particulier, c'était la proximité réelle entre les colonisateurs et les colonisés et l'absence de différence entre eux. C'est ça qui était le plus frappant. Surtout vu de l'extérieur. Moi, j'étais quelqu'un de l'extérieur, puisque j'arrivais de Paris. Il y avait à la fois hargne et connivence entre les deux populations. Et je ne pourrais pas jurer que la connivence n'était pas au moins aussi forte que la hargne. Ça dépendait des moments. Quand ils étaient entre eux, c'était la hargne. Mais quand ils étaient avec des étrangers, c'était la connivence. Et il en reste encore beaucoup de choses. Je sais que même des gars de l'OAS qui vont en Algérie sont reçus quasi à bras ouverts. Parce qu'ils sont, comme eux. Ils se ressemblent. Ils ont... Bon. C'était une guerre qui n'aurait jamais dû exister. Cette guerre-là n'aurait pas dû avoir lieu. Bon, l'espèce humaine, c'est quelque chose de global. C'est un tout. Elle se tirera d'affaire tout entière ou elle se perdra tout entière. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, la seule façon que nous avons d'aider les gens dits du tiers-monde, c'est de les mettre en état de se tirer d'affaire tout seul. Il n'y en a pas d'autre.
Et voilà un moment où vous vous trouvez, alors ça c'est un moment particulièrement dur et atroce que vous avez vécu, c'est la veille du 13 mai 1958, où vous trouvez entre les exécutions des Français et les attentats des Algériens.
Je pense qu'on est obligé tout de même de parler de ma rencontre avec les terroristes algériens. Parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à... ma vigilance a été encore plus grande par rapport à la façon délirante dont la guerre était évoluée. Elle évoluait comme ça malgré la volonté des deux belligérants. Car du côté français, je peux vous dire que dans tous les partis français, à la tête de tous les partis français, on était conscient de la nécessité d'arrêter la guerre. Et du côté algérien, on était aussi conscient de cette nécessité. Eh bien, littéralement, la guerre est échappée à ceux qui croyaient la conduire. Songez donc que tout le monde n'avait qu'à consulter les statistiques qu'on avait à l'époque pour savoir que l'Algérie compterait, dans 10 ans, elle comptera autant d'habitants que la France. N'importe qui pouvait le savoir, il suffisait de regarder les chiffres. C'était écrit noir sur blanc. Il suffisait de réfléchir 2 secondes pour savoir que quoi qu'on fasse, si l'Algérie restait française, il fallait que tous les Algériens aient le droit de vote, comme les Français, c'était clair. Ou alors nous devions nous renoncer à notre droit de vote. De 2 choses l'une, ou nous restions une démocratie, ou cette démocratie s'étendait à l'Algérie. Par conséquent, il suffisait à ce moment-là de demander aux Algériens « qu'est-ce que vous voulez être ?» Voulez-vous être français ou pas? Et il n'y avait pas de guerre. S'ils voulaient être algériens, ils étaient algériens. Ou alors nous cessions, nous, d'être une démocratie.
Faut peut-être
préciser. Par conséquent, cette guerre ne servait à rien. Il suffisait de voter, tout court, d'appliquer nos lois, qui étaient les lois de la démocratie, et de consulter démocratiquement le pays qui était soi-disant la France.
Mais cela n'eut pas lieu, on le sait. Alors une fois la France prise dans l'engrenage, Germaine Tillion va faire une découverte qui la bouleverse comme française et comme ancienne déportée, l'existence de la torture en Algérie. Elle fut amenée alors à intervenir aux côtés de ceux qui voulaient arrêter à la fois le terrorisme et la torture qui ne cessaient plus de se répandre. Elle agit, elle prit des contacts.
Mon contact d'abord était tout à fait par hasard. Plus exactement, nous étions quelques patriotes français qui avions durement subi l'occupation de 40, qui avions à ce moment-là une idée de la France qui n'était pas l'idée d'un pays tortionnaire. Et quand nous avons su ce qui se passait en 57, à partir de janvier 57 à Alger, c'est-à-dire la généralisation de la torture, nous avons chercher comment arrêter les dégâts. Et alors, c'est David Rousset qui a eu l'idée de faire une enquête internationale dans les camps et prisons d'Algérie. Et cette enquête internationale, nous avons choisi un docteur belge qui avait été le chef de l'armée secrète belge, un avocat hollandais, une journaliste norvégienne, et alors il y a 2 Français pour les accompagner qui ont été Louis-Martin Chauffier et moi-même. Alors nous sommes partis pendant un mois et nous avons visité tous les camps et toutes les prisons d'Algérie. Pour moi qui avais créé les centres sociaux entre-temps, et qui connaissait personnellement, au fond, toute l'élite pensante de l'Algérie, je l'ai retrouvé dans les prisons. Et ils m'ont retrouvé comme étant quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ils m'ont parlé, pendant que enquêtaient les trois internationaux, c'est avec moi qu'ils parlaient en confiance. Ce qui fait que j'ai su, j'étais déchirée, vraiment, par ce que j'ai vu et entendu. Et alors, la dernière semaine, je me trouvais à l'hôtel Saint-Georges, et une amie en qui j'ai une totale confiance, qui s'appelle Fatima Amdiken, est venue me trouver en me disant « Ils veulent vous voir ». J'ai dit « Qui c'est ça, il ?» Elle m'a dit « Je ne sais pas ». J'ai dit « En tout cas, ce sont des gens qui se cachent. Moi, je suis ici pour écouter tout le monde, mais surtout qu'ils ne passent plus par vous pour me parler, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Il y aura forcément quelqu'un qui sera pris dans leur groupe et ils vous dénonceront. » Alors, on a convenu que je descendrai à 2h de l'après-midi. Ça devait se passer au début de juillet 57, et que je suivrai quelqu'un qui ferait un signe quelconque. Et ce quelqu'un, je sais maintenant son nom, il s'appelle Ali Bouzourane, et je lui ai demandé, quand je l'ai revu il y a 2 ans, je lui ai demandé quel était le signe pour le reconnaître. Il m'a dit, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'avais un pantalon bleu pétrole. Mais c'était sûrement pas le signe, parce que Fatima ne pouvait pas savoir qu'il aurait un pantalon bleu pétrole. Enfin bref. J'ai donc suivi Ali Bouzourane, dont je ne savais pas ni le nom ni rien, et nous sommes arrivés dans la Casbah. Et dans la Casbah, il y a une dame en costume algérien qui m'a ouvert la porte. C'était Madame Bouhired, la tante de la jeune Fatima Bouhired. Elle m'a fait entrer, monter au premier étage, et là il y avait une autre dame qui était Zora Drif. Et puis il y en a une des deux qui est sortie, je crois que c'est Madame Bouhired, et elle est revenue avec 2 hommes qui avaient chacun une mitraillette et puis une bombe qui pendait ici, un revolver qui pendait là. Alors on a parlé, et ça, tout ça, je l'ai raconté dans les ennemis complémentaires en détail. C'est pas la peine d'y revenir. Mais j'ignorais leur nom. Alors quand je les ai quittés, je leur ai dit mon devoir est de rendre compte de cette conversation à mon gouvernement. Entre-temps, peut-être que je dois dire que la conversation avait évolué sur l'histoire de la résistance française et sur mes propres souvenirs de la résistance française. Et ça, ça les avait passionnés. Et c'est à ce moment-là que celui qu'ils appelaient le grand frère, qui était en réalité Yassef Saadi, a dit « Vous voyez que nous ne sommes ni des brigands, ni des assassins. » Et que je lui ai dit « Vous êtes des assassins. » Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « Oui, Madame Tillion, nous sommes des assassins. » Et qu'il m'a raconté un des attentats qu'il avait fait. Alors il m'a dit « J'ai horreur de... » Il m'a exprimé son horreur pour les attentats qu'il avait faits. Je lui ai dit « Mais pourquoi le faire ?» Il m'a dit « Parce que nous sommes obligés à cause des exécutions capitales. » Alors, quand je l'ai quitté, je lui ai dit « Mon devoir est de rendre compte de cette conversation à mon gouvernement. » Il m'a dit « Vous faites ce que vous voulez. » Et je suis partie avec l'idée que si nous arrêtions les exécutions capitales et qu'eux, ils arrêtaient les attentats, à ce moment-là, on pourrait faire descendre le degré d'agressivité des deux populations et qu'on pourrait se parler. Et qu'à partir du moment où on pourrait se parler, ben, la guerre se viderait. Et on arrêterait le massacre. Alors, quand je suis rentrée à Paris, j'ai téléphoné le jour même. Il se trouve que par hasard, c'était un de mes amis d'enfance qui était au cabinet de Bourgès Mounouri, et que le directeur du cabinet du président du conseil était dans mon réseau de résistance. Il était du réseau Musée de l'Homme. C'était André Bouloche. J'ai téléphoné le lundi matin et le lundi après-midi, j'ai été reçu pendant 2 heures par André Bouloche, directeur du cabinet du président du conseil. Il m'a demandé de revenir et 3 jours après, il m'a demandé si j'accepterais de repartir en Algérie et il a ajouté « à vos risques et périls ». car il ne pouvait pas assurer ma sécurité en Algérie, non pas par rapport au FLN, mais par rapport au colonel d'Alger. Et ceci se passait en juillet 1957.
Les colonels d'Alger qui ont procédé aux exécutions, et puis tout a continué.
Non, ils n'ont pas procédé aux exécutions. C'est pas eux qui... Non, c'était en réalité, hélas, tout passé par Paris. Tout passé par Paris et par la faiblesse du président Coty, qui cédait aux pressions d'Alger. Jusqu'au moment où ces pressions ont été tellement fortes que la mécanique a claqué et que nous avons eu le 13 mai. L'arrivée du général de Gaulle, c'était réellement... Il s'est trouvé que de Gaulle existait. Supposez que de Gaulle n'ait pas existé. C'était la guerre civile.
Après l'indépendance de l'Algérie, Germaine Tillon va écrire son œuvre capitale, publiée en 1966, « Le harem et les cousins », devenu un grand classique de la sociologie et de l'ethnologie de la Méditerranée, qui montre non seulement l'asservissement de la femme sur les deux rives, dans le monde musulman comme dans le monde chrétien, mais qui voit dans cette condition servile l'une des causes essentielles de l'aliénation, du blocage, du retard des sociétés musulmanes. Il s'agit là, comme le montre Germaine Tillon, d'un certain modèle de civilisation, de quelque chose qui remonte aux origines de la diversification des sociétés humaines.
Quelque chose qui est extrêmement important par rapport à l'espèce, c'est ce qu'on pourrait appeler la démographie. Et que, en fait, disons que l'humanité paléolithique est une humanité à démographie contrôlée. Elle a pu être contrôlée, je dirais, par l'infanticide. C'est une manière de contrôle qui n'est pas plaisante. Mais indiscutable, arrive une seconde phase, qui est la phase néolithique. Et là, nous avons au contraire une politique de démographie, non pas incontrôlée, c'est le contraire, contrôlée dans l'autre sens, c'est-à-dire expansionniste au maximum. Toute femme qui n'a pas un enfant par an est une criminelle. Alors, ça marche comme ça. Ça va comme ça parce qu'on a besoin de soldats, on a besoin de main-d'œuvre. Et on peut la nourrir puisqu'on fabrique des aliments. Et même en quantité énorme. Et puis nous arrivons maintenant à une troisième phase. Une troisième phase où la terre éclate. La surcharge humaine est énorme. Et bien voilà, il faut inventer une autre société. La société numéro 2, c'est la société méditerranéenne. Et l'énorme expansion qu'elle a eue lui a permis littéralement, disons, d'écrabouiller tout le reste de la Terre. Pratiquement, cette petite province qui s'appelle la Méditerranée a recouvert le reste de la Terre à cause de sa mécanique expansionniste. Mais maintenant, la mécanique expansionniste est arrivée au bout de son rouleau. Bon, ben voilà. Maintenant, nous sommes arrivés à après-demain. Ben, comment ça va se passer? Je peux vous le dire, j'en sais rien. Et puis vous non plus.
Germaine Tillon, Le combat pour la vérité par Georges Walter pour Mémoire du siècle, a été diffusé pour la première fois le 29 juillet 1987. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.